Nous accouchons des mères porteuses, nous voyons des mères d'intention et des couples d'intention. Et je dois reconnaître que dans ma corporation, les accoucheurs, il y a assez peu pour l'instant de médecins qui se sont exprimés favorablement à la GPA, mais j'espère que cela changera. Je voulais, juste avant de donner la parole, faire une petite remarque sur ce que je pense de la maternité. On a parlé de maternité génétique, on a parlé de maternité obstétricale ou gestationnelle, mais il y a une troisième maternité et qui me semble être le pied fondamental de la maternité, et elle n'est ni génétique ni gestationnelle, c'est ce que j'appellerais la maternité d'adoption. Et d'ailleurs, quand il manque les deux autres, il y a quand même de fort bonnes mères qui ne sont ni des mères génétiques, ni des mères qui ont mis au monde l'enfant et qui sont pourtant de fort bonnes mères. Et je dirais même plus, je suis confronté dans ma pratique de tous les jours à une situation clinique qui s'appelle, vous en avez entendu parler, le déni de grossesse, qui se termine de temps en temps par du fait divers. Eh bien ça, ce sont des mères génétiques, ce sont des mères gestationnelles qui ont si peu d'une mère qu'elles arrêtent souvent la vie une fois que celle-ci est apparue, comme si elles n'avaient pas adopté leur enfant, ni pendant la grossesse, ni même d'ailleurs après l'accouchement. Ce qui m'a appris à voir, d'ailleurs quand je passe la visite, il y a très peu de femmes qui me disent qu'elles trouvent leur enfant moche. Or, il y en a beaucoup qui trouvent leur enfant fort moche. Elles mettent du temps à adopter l'enfant, et la maternité me semble être plus complexe qu'une affaire de génétique. Aucune raison de survaloriser la passade obstétricale. Et donc, pour moi, la vraie mère, c'est celle qui a adopté l'enfant. Et j'ai à côté de moi une sage-femme qui a l'énorme mérite d'être en même temps doctorante en sociologie à l'École des hautes études, et qui est sage-femme mais qui fait des accouchements encore au Bluet. Et donc, je donne la parole à Hélène Malmanche.
Je vous remercie, professeur Nizan, pour cette présentation. Donc, comme le professeur Nizan l'a dit, je suis en fait à la fois sage-femme donc, et actuellement doctorante en sociologie en deuxième année de thèse à l'École des hautes études en sciences sociales. Donc, mon sujet est l'enfantement, entendu comme un acte non seulement biologique, mais aussi psychologique et social, un acte humain au sens fort, actus humanus selon la définition scolastique, parce qu'il est parcouru de bout en bout de sens et de valeurs. L'originalité de mon travail est de procéder à la comparaison systématique de ce que veut dire enfanter pour soi et enfanter pour autrui. Donc, ce travail en cours s'appuie sur une enquête de terrain dans deux hôpitaux, en France et en Belgique, incluant des entretiens avec des parents d'intention dans différentes situations, selon qu'ils sont aussi les parents biologiques ou non, selon qu'ils ont recouru ou non à un don de gamètes ou à une GPA, et des entretiens avec des femmes porteuses et leurs conjoints, et des entretiens avec des professionnels de la naissance, sages-femmes, infirmières, obstétriciens, secrétaires médicales, etc. L'enquête inclut également un ensemble d'observations ethnographiques effectuées en salle de naissance, dans la maternité où, avant ma thèse, donc, j'exerçais à temps plein en tant que sage-femme à Paris, et ainsi qu'en salle d'accouchement dans un hôpital qui accueille ma recherche à Bruxelles actuellement. Donc, je vais tout d'abord brièvement évoquer le matériau sur lequel je m'appuie pour cette présentation et préciser ensuite ce que j'entends par enfantement et ce qu'est une description épaisse, et j'illustrerai ma recherche par deux exemples que je détaillerai. Donc, brièvement, cette ethnographie sur deux sites. Donc c'est assez classique hein, d'avoir une ethnographie sur différents centres. Et il y en a donc une qui dure 3 mois et qui est encore en cours en Belgique, à la fois en service de PMA et bientôt en salle d'accouchement, et une ethnographie déjà réalisée de 6 mois dans l'ensemble des services de la maternité, maternité qui comprend aussi un centre de fertilité. J'ai par ailleurs un corpus d'entretiens que j'enrichis toujours actuellement et j'en totalise pour l'instant 37. En tout cas, je m'appuie sur 37 entretiens pour cette présentation. Donc vous avez le détail ici et je vais vous passer rapidement. Donc j'en viens à juste quelques éléments de définition avant d'arriver vraiment aux exemples. J'ai indiqué que l'objet de ma thèse est d'étudier l'enfantement. Précisons le sens de cette catégorie. Comme l'a montré Irène Théry, pour pouvoir penser le don de gamètes, il est nécessaire de distinguer procréation et engendrement. La procréation est strictement biologique. Il s'agit des processus physiques qui aboutissent à la naissance d'un nouvel exemplaire d'une espèce vivante sexuée. L'engendrement est plus large parce qu'il inclut la dimension du sens. Il s'agit des processus amenant à la naissance d'un enfant qui sera inscrit dans le monde humain, en particulier via une filiation. Or, procréation et engendrement ne se recouvrent pas toujours. Ceux qui fournissent le matériel génétique ne sont pas nécessairement les parents, et procréer n'est pas toujours engendrer, comme engendrer ne suppose pas toujours de procréer. Et c'est le cas en particulier dans la procréation médicalement assistée avec tiers donneur. J'inscris mon travail dans la continuité de cette distinction et mon apport personnel est de la prolonger en me concentrant sur une autre catégorie complémentaire, celle de l'enfantement. Ce terme englobe à la fois la grossesse et l'accouchement. Son intérêt est de ne pas réduire à une dimension biologique, mais au contraire d'inclure la dimension du sens et de la valeur accordée à cette grossesse, à cet accouchement, comme constitutif de ce qu'ils sont. L'enfantement est donc le processus de grossesse et d'accouchement saisi comme un acte humain pluridimensionnel, physique, psychique, social et symboliquement institué. Dans une perspective comparative, je m'efforce d'examiner l'enfantement pour soi en rapport avec l'enfantement pour autrui de manière systématique, comme je l'ai annoncé. Donc, j'observe tout le faisceau d'actes et de paroles qui, depuis la conception jusqu'à la naissance et juste après la naissance, permettent aux individus donc d'être institués comme les parents d'un enfant ou bien de ne pas l'être. Alors, qu'est-ce que pourrait être une description épaisse de la gestation pour autrui ? Cette notion, elle est due au philosophe Gilbert Ryle, qui a été ensuite reprise et développée par l'anthropologue Clifford Geertz. Ils ont qualifié de description épaisse une description qui consiste à détailler les multiples aspects et points de vue que l'on peut observer pour une situation donnée, qu'il faut ensuite articuler, ordonner et organiser entre eux. Une description épaisse d'un comportement humain n'explique pas uniquement ce comportement humain, elle explicite également tout son contexte, si bien que ce comportement a du sens pour une personne extérieure. Autrement dit, une description épaisse de la GPA nécessite d'observer et d'entendre l'ensemble des personnes impliquées dans la GPA tout au long du processus. Donc j'en viens maintenant aux exemples. Voilà, donc vous voyez ici sur ces différentes photographies des t-shirts avec des inscriptions telles que « There burn my oven, leur brioche, mon four », qui est, comme on l'avait vu, une image très souvent utilisée, notamment aux États-Unis. Alors, celle qui est particulièrement drôle, donc c'est celle de cet homme qui est manifestement un conjoint de femme porteuse, qui dit « Ma femme est enceinte, mais ce n'est pas le mien ». Et on ne voit pas en dessous, mais il y a écrit en dessous, il y a deux hashtags. Il y en a un qui dit « Team double take », qui est très dur à traduire en français, mais qui voudrait dire « Il faut s'y reprendre à deux fois pour comprendre ». Double take, c'est ça que ça veut dire. Et hashtag « La GPA, ça déchire », « Surrogacy rocks ». Voilà, donc, et puis vous voyez, il y a, on voit que chaque t-shirt est destiné à un protagoniste différent qui précise son statut par rapport à une grossesse en cours. On constate cette nécessité de déclarer de manière ponctuelle par le port d'un t-shirt avec une inscription plus ou moins explicite sur la place que chacun occupe autour d'une grossesse montre à quel point il est important de pouvoir communiquer à autrui un sens particulier à ce qui est rare, inattendu et hors du commun. Le choix de la dérision, ma femme est enceinte mais je ne suis pas le père, interpelle volontairement, par provocation et en même temps désamorce un éventuel malaise par le fait d'en rire. L'utilisation de métaphores explicites, leur brioche, mon four, permet en un slogan et une image de faire comprendre une situation atypique où l'on ne s'attend pas à ce qu'une femme enceinte ne soit pas la future mère. On comprend bien la fonction de ces inscriptions qui permettent à la fois de questionner et d'interpeller celui qui les lit, mais également de donner une réponse claire à une situation inattendue Et cela permet probablement d'éviter des malentendus et des situations gênantes ou d'amorcer le dialogue avec l'entourage indirect, comme par exemple le boulanger ou bien les voisins qui pourraient poser des questions. Et le port de ce t-shirt permet de manière très simple de pouvoir répondre sans répondre à ces questions. Alors, le choix de cette stratégie d'annonce ne laisse pas de doute quant au sens de la grossesse. On déclare à l'avance, des mois avant la naissance, parfois même avant la grossesse, les rôles de chacun. Je ne vous l'ai pas mise, mais on le verra plus tard, on peut porter ces t-shirts avant même qu'il y ait eu le transfert des embryons. Cela signe l'importance pour les personnes, les acteurs comme les observateurs, de marquer clairement leur place dans une situation complexe où ce qui est visible, un ventre rond de femme enceinte, recèle un autre sens que le sens ordinaire. Alors, sur cette photo, vous voyez le même t-shirt qui est décliné avec un statut différent pour chacun. Alors, donc il y a des choses qui sont évidentes, mais peut-être vous ne connaissez pas Frunkel et Frusin, qui sont les contractions de friend et uncle et friend et cousin, pour dire cousin de cœur ou oncle de cœur. Nous n'avons pas d'équivalent en français. Donc, sur cette photo, où on a ce même t-shirt décliné avec un statut différent pour chacun, il va s'agir non seulement de marquer sa propre place, mais également, et vraiment c'est ça qui est important, de la relier à d'autres. Ils ont tous le même t-shirt. Et donc, on les relie de manière relative. Ces photos endossent la double fonction d'individuation des positions de chacun et de relation des acteurs les uns par rapport aux autres en tant que protagonistes d'une même action sociale globale, la gestation pour autrui. Le fait d'afficher à l'avance un statut n'est pas caractéristique de la gestation pour autrui. En l'absence de visibilité de la grossesse, que ce soit pour la femme enceinte dont le ventre gravide n'est pas perceptible parce qu'on est très tôt dans la grossesse ou bien parce qu'on est une femme en surpoids et que la grossesse n'est pas forcément évidente, ou alors pour les autres membres de la famille qui, eux, n'ont pas cette marque visible du ventre rond de la femme enceinte, les mêmes types de t-shirts existent. Et donc, on le voit avec ces photos, future grand-mère, futur papa avec la barre de chargement, ou future maman avec la flèche qui va vers le bas et qui indiquera le futur ventre rond. Et le ventre est là, bien sûr, mais pas encore visible en tant que ventre plein. Il s'agit, dans tous les cas, d'inscrire temporairement au travers du corps, qui manifeste ici sa fonction de support de l'identité, le changement de statut qui est en train de s'opérer au fur et à mesure de la grossesse. J'en viens à mon deuxième exemple, qui concerne un dispositif sonore utilisé comme voie d'intronisation sensorielle des parents d'intention auprès du fœtus. Alors, vous voyez ici la publicité pour une ceinture de grossesse d'un type un peu particulier. Ces ceintures de grossesse comportent des haut-parleurs que l'on branche à un iPhone, par exemple, et ces haut-parleurs plats sont spécialement conçus pour diffuser de la musique au fœtus parce qu'ils sont collés contre la paroi abdominale de la femme enceinte, ce qui permet de transmettre les vibrations sonores le plus directement possible au fœtus. Et la publicité pour cette ceinture nous dit, peut-être que vous ne pouvez pas le lire parce que c'est un peu petit, mais elle nous dit que la recherche a montré que la musique pouvait aider les parents à créer des liens avec un bébé avant la naissance. Alors, dans le cas de la gestation pour autrui, ces ceintures sont utilisées par les parents d'intention pour diffuser leur voix qu'ils enregistrent spécifiquement pour l'enfant in utero, pour que l'enfant perçoive leur voix comme s'ils étaient en face du ventre et comme s'ils s'adressaient directement à lui. Dans les messages vocaux qu'ils enregistrent, les parents lisent des histoires ou chantent des comptines pour lui. Je vous lis deux extraits d'entretien à ce sujet, l'un qui est un extrait d'entretien et l'autre qui est un extrait de conversation Facebook. Et j'ai anonymisé, bien sûr, donc j'ai changé les noms. Alors, le premier entretien, femme porteuse nous dit « En fait, Amélie m'avait envoyé une ceinture de grossesse qui a deux petits haut-parleurs intégrés. Et en fait, ces haut-parleurs permettent de diffuser de la musique au bébé. Donc, tu branches un iPod et tu peux diffuser ce que tu veux au bébé, il va l'entendre. Du coup, Philippe et elle avaient enregistré des berceuses et puis des contes pour enfants qu'ils lisaient pour que je les diffuse au bébé. Comme ça, il entendait la voix de ses parents tous les soirs et ça lui permettait de s'habituer à leur voix et puis de les reconnaître à la naissance aussi. » Autre extrait. Ils ont commencé à chercher des prénoms et à m'envoyer des messages audio de leur voix que je fais écouter au bébé tous les soirs grâce à un système de haut-parleurs collé sur mon ventre. C'est très ingénieux. Pour favoriser l'attachement du bébé à ses deux papas, je lui fais écouter deux histoires tous les soirs, lues par chacun des deux. En pratique, ils lisent à haute voix une histoire, l'enregistrent et me l'envoient par SMS. J'utilise des haut-parleurs créés pour envoyer le son in utero « bébé adore ». Dans les récits des femmes porteuses, ces moments de diffusion sonore font l'objet d'une vigilance particulière de leur part. Elles sont tout à fait réceptives et attentives aux mouvements et aux réactions du bébé, dont elles sont à la fois l'interprète et le messager. Elles décrivent aux parents d'intention les mouvements ou au contraire l'apaisement que peut provoquer leur voix. Pour ces parents, le but de ce contact sonore régulier, parfois quotidien, est d'habituer l'enfant à son futur environnement sonore pour qu'il soit déjà familiarisé avec les voix de ses parents. La voix est considérée comme un point de repère à la naissance parce qu'on pense que la voix qui a été entendue dans le ventre est reconnue après la naissance et crée ainsi une continuité entre la vie in utero et la vie au dehors. Encore une fois, cet enjeu n'est pas spécifique à la gestation pour autrui et on le voit bien dans cette publicité qui utilise comme argument le fait qu'il y aura création d'un lien avant la naissance grâce à cette ceinture. La musique « Music can help parents bond with a baby before birth ». Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais c'est la GPA qui nous révèle à quel point la préparation et cette stimulation d'une sensorialité anténatale est importante dans l'idée qu'on se fait d'une bonne acclimatation du fœtus à son futur environnement par des formes d'attachement précoces, le reliant in utero à certaines dimensions corporelles de ses futurs parents. La particularité de la GPA, où la gestatrice n'est pas destinée à devenir la mère, et où une autre femme, parfois deux hommes, doivent être intronisés comme les futurs parents, donne à ces mini-rituels une portée nouvelle au sein de l'enfantement. Les enjeux sont aussi renforcés par les situations d'éloignement géographique et la discontinuité de la présence parentale autour du ventre de la femme enceinte. En somme, c'est la GPA qui rend visibles ces marqueurs préparatoires d'affiliation et d'intégration dans la vie du dehors. Ces marqueurs sont présents et tout aussi opérants dans les enfantements ordinaires pour soi, mais c'est parce qu'en GPA, l'enjeu est de signifier et de faire advenir concrètement un enfantement pour autrui qu'elles révèlent leur dimension performative, intentionnelle et investie de sens. Et j'en viens à la conclusion. La GPA, donc, révèle tout un ensemble de faits minuscules, de mini-rituels, de manières de parler nécessaires à l'établissement progressif d'une filiation au cours de l'enfantement. Ce qui paraît insignifiant et que l'on n'aperçoit même pas dans l'enfantement ordinaire pour soi, tant cela semble aller de soi, est révélé indirectement par la gestation pour autrui. Lorsqu'une femme porte un enfant et accouche pour autrui, il devient capital pour les protagonistes de pouvoir marquer par des actes, des paroles et des signes visibles, les places, les rôles et statuts de chacun. Ces actes ne font pas que constater, ils ont une dimension performative, ils font advenir l'enfantement pour autrui en tant que tel. Et parvenir à décrire comparativement de façon systématique les différences et les ressemblances entre les deux processus d'enfantement pour soi et pour autrui, c'est donc l'objet de ma recherche qui est en cours et je tiens à ce propos à remercier bien évidemment les organisateurs de ce colloque pour m'avoir permis de vous présenter ces travaux à l'état où ils en sont aujourd'hui. Merci.
Je donne la parole, merci Hélène Malmanche, je donne la parole à Jérôme Coudurièse qui est anthropologue et maître de conférence à l'Université Jean Jaurès de Toulouse. Vous avez la parole.
Merci. Merci aux organisateurs et aux organisatrices pour ce beau colloque. Dans un texte récemment publié en français, Claude Lévi-Strauss, dans un texte récemment publié en français, mais édité la première fois en 89 sous la forme d'une tribune dans le quotidien La Repubblica en Italie, Claude Lévi-Strauss considérait que les méthodes de procréation assistée avaient leurs équivalents du point de vue de l'anthropologie de la parenté dans des sociétés traditionnelles qui ne connaissaient pas la médecine procréative. Il ne s'agit bien entendu pas de voir dans les techniques assistées de reproduction les équivalents stricts des pratiques traditionnelles palliatives à l'absence d'enfants. Néanmoins, les unes comme les autres, devant l'infertilité d'un couple, proposent une solution pour lui permettre de devenir parent en dissociant la procréation de la filiation. Quelques mots d'abord à propos de mon travail de terrain. Je m'appuierai aujourd'hui sur le témoignage recueilli auprès de 10 couples hétérosexuels J'ai également rencontré 15 couples gays, mais je ne parlerai ici que des couples hétérosexuels. Une gestation pour autrui a été menée en Inde, parmi les gens que j'ai rencontrés, une autre en Russie et les 8 autres en Amérique du Nord. L'ensemble des couples que j'ai rencontrés qui ont eu recours à une gestation pour autrui avaient suffisamment de moyens financiers pour assumer le coût d'une gestation pour autrui. Si quelques-uns ont des métiers qui leur procurent une rémunération très confortable, ceux-là sont cadres dirigeants, ingénieurs très qualifiés, dirigeants d'entreprise. D'autres sont employés, petits commerçants ou enseignants. On est loin de la caricature qu'on nous dépeint parfois. Ceux-là ont dû souvent d'ailleurs emprunter, évidemment, pour mener à bien leur projet, voire vendre leur seul bien immobilier. Deux couples gays m'ont parlé de la femme qui a porté leur enfant comme une sorte de mère. Je les cite. Aucune des mères que j'ai rencontrées n'a dit avoir reconnu dans la femme qui a porté leur enfant une mère, ni même une sorte de mère. Pour un couple gay, l'injonction à construire pour leur enfant un cadre familial le plus conforme possible aux attentes dominantes peut conduire, dans certaines situations, et là je répète qu'il ne s'agit que de deux couples, à voir dans la femme porteuse une figure maternelle. Mais je pense que cela reste rare. Au contraire, une femme qui recourt à une autre pour porter son enfant est enjointe de dénier toute qualité maternelle à cette femme. La mère doit construire sa maternité, alors que la gestation pour autrui est dénoncée par certains comme une pratique moralement suspecte, qu'elle n'a pas pu porter son enfant, ni le mettre au monde, et parfois même qu'elle n'a pas pu participer à sa conception. Sa propre maternité est fragilisée, et même contestée en France, jusque dans les actes d'état civil, nous l'avons vu encore tout à l'heure, et des décisions judiciaires, et ne saurait souffrir, dans une société qui ne paraît pas tolérer les maternités ni les paternités additionnelles, la moindre concurrence. Parmi les personnes que j'ai rencontrées, je vais trop vite. Ah merde. Là, c'est bon. Depuis longtemps, alors. Parmi les personnes que j'ai rencontrées, un homme est le seul à expliquer, voir en elle uniquement une personne à laquelle il est lié par un contrat. Il est le papa d'une petite fille âgée de 4 ans. Il vit aujourd'hui avec sa fille et son compagnon. Aucun couple hétérosexuel, ni aucun autre, gay d'ailleurs, n'a mis la dimension contractuelle au cœur de la définition de la place de la femme qui a porté son enfant. Cela ne signifie pas qu'elle est absente de l'histoire, mais elle passe à l'arrière-plan le plus souvent. Ce qui se comprend aisément dans notre contexte culturel et politique. Pardonnez-moi de ne pas développer davantage. Néanmoins, ne pas vouloir voir dans la femme qui a porté son enfant une maman ni une autre sorte de mère, comme pourraient les y encourager par ailleurs les représentations d'une maternité fondée sur la grossesse et l'accouchement, ne signifie pas que l'on ne reconnaît pas le rôle joué par la femme porteuse. Les mères rencontrées, comme d'ailleurs l'ensemble des pères gays ou hétérosexuels, soulignent son importance dans l'accomplissement de leur vœu de fonder une famille et l'intègrent parfaitement dans le récit familial qu'ils livrent ou livreront à l'enfant. Sans que tous les parents que j'ai rencontrés témoignent de la même expérience, pour un certain nombre, la femme porteuse, plus qu'une simple pourvoyeuse d'enfants, amicale bien sûr, a intégré l'entourage amical des parents d'intention. La littérature disponible laisse entrevoir que cette logique, consistant à faire entrer la femme porteuse dans le cercle des proches des parents d'intention, est aussi animée par des surrogates elles-mêmes. C'est ce que montrait déjà Elena Ragonet, l'anthropologue américaine, dans l'enquête pionnière qu'elle a menée aux États-Unis à la fin des années 80 et au début des années 90, auprès de surrogates et de ce qu'elle appelait à l'époque les mères adoptives. Des parents d'intention, soucieux de ne pas recourir à un terme de parenté, ont réfléchi à la dénomination de la femme qui les avait aidés à accomplir leur désir de maternité. Un nouveau mot a été trouvé pour la qualifier. La gestatrice est devenue, je les cite, une nounou. C'est ainsi que David et son épouse Virginie, dès notre prise de contact, ont présenté au téléphone la femme à laquelle ils ont eu recours pour porter leur petite fille, âgée de 3 mois, à notre rencontre. L'initiative est encouragée vivement par une association de ma connaissance de soutien des personnes infertiles. Ce terme de référence est utilisé par ailleurs par tous les couples de parents hétérosexuels que j'ai rencontrés, mais je souligne qu'il n'est jamais utilisé par les couples gays. L'usage du terme « nounou », dont j'ignore s'il est néanmoins massivement adopté au-delà des couples hétérosexuels que j'ai moi-même rencontrés, recouvre certainement plusieurs dimensions. Il vise peut-être à rendre plus acceptable une relation monétarisée entre les parents d'intention et la gestatrice, une relation censée être dépourvue d'affect, car pervertie, nous dit-on, par la circulation d'argent. Le terme « nounou » permet de valoriser le rôle de la femme, également, qui porte l'enfant, sans aller pour autant jusqu'à en faire une mère ou même une sorte de mère. Et dans le même temps, il la reconnaît comme la détentrice d'un attribut parental, au sens d'Esther Goody, l'anthropologue britannique. Cet attribut parental étant celui qui consiste à garder et nourrir l'enfant. À la femme qui porte l'enfant est associée la métaphore de la nourrice, donc, dans ces situations. La nourrice est celle à qui les parents confient l'enfant, qui en est donc la gardienne. C'est ce sens-là que les parents qui usent de cette métaphore lui attribuent. Mais le rôle de la nourrice est aussi précisément de nourrir l'enfant qui lui est confié. Si aucun parent n'a évoqué explicitement le rôle nourricier de la gestatrice, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question, tout de même, dans un contexte où les savoirs des disciplines du vivant se diffusent quant aux échanges intra-utérins, de la consubstantialité nourricière de l'enfant et de la femme qu'il a porté et mis au monde en l'absence de tout lien génétique. Une consubstantialité qui, dans de nombreuses sociétés non européennes, et même dans les sociétés européennes autrefois, fabriquait de la parenté. Assigner la femme porteuse au rôle de nourrice, au sens de gardienne d'enfant, pourrait aussi faire écho à une volonté de minimiser son rôle physiologique. De la même façon que la femme porteuse, elle-même, cherche aussi à minimiser son propre rôle et à le réduire à un simple rôle fonctionnel pour mieux souligner le rôle de l'intention, du care et de l'éducation et valoriser ainsi le lien entre l'enfant et sa mère. C'était déjà montré par Elena Ragonet. La question de savoir si la gestation pour autrui fabrique des liens de parenté additionnels ou simplement affectifs ou fait entrer la femme porteuse aux marges de la parenté peut être sans objet dans certain nombre de contextes transfrontaliers. En particulier lorsqu'il s'agit de gestations pour autrui qui font se rencontrer des personnes appartenant à des cultures très différentes où les normes de parenté, les théories locales concernant la reproduction et la place relative des hommes et des femmes peuvent être très différentes. Parfois même s'ajoutent à ces différences des écarts très importants entre les situations économiques des deux pays et des deux familles et bien entendu la non-maîtrise d'une langue commune et la distance géographique qui peuvent rendre difficile, voire impossible, toute relation personnelle, régulière et sans intermédiaire. Outre les différences inhérentes à ces recours transfrontaliers, l'organisation même de la GPA dans certains pays très hiérarchisés, organisée et encadrée à tout point par des intermédiaires commerciaux et médicaux, rend quasiment impossible toute relation directe avec les protagonistes. Dans quelques pays, les femmes porteuses, pour qui c'est parfois un moyen de percevoir l'équivalent de plusieurs années de revenu familial, appréhendent souvent la mère d'intention simplement comme une personne qui verse une somme d'argent importante pour louer son ventre. Ce qui ne signifie pas, bien sûr, que ces surrogates voient les parents d'intention comme des esclavagistes. Ce sont pour elles simplement des personnes qui leur permettent de faire un travail, nous l'avons déjà évoqué au cours de cette journée, mieux rémunéré, doté de davantage de sens. Je cite dans ma traduction Charmila Roudrapin, certes éprouvant émotionnellement et physiquement, mais moins éreintant que celui qu'elle-même ou nombre de femmes qu'elles connaissent exercent dans des usines textiles, par exemple. On comprend que dans ces conditions en Ukraine, en Russie ou dans l'état du Gujarat en Inde, par exemple, comme sans doute dans d'autres pays, et quelle que soit la volonté des parents d'intention, la possibilité d'une relation directe, régulière et personnelle entre parents d'intention et surrogate soit tout à fait incongrue et aille même à l'encontre des intérêts de la femme porteuse. Au-delà des relations nouées pendant la grossesse, comment se déroulent les instants autour de la naissance ? Nous savons que dans nos sociétés, l'accouchement est un moment fondateur dans l'idéologie de la maternité. Comment se déroule-t-il lorsque la femme qui a porté l'enfant et la met au monde n'en sera pas la mère ? ne s'est jamais envisagée comme sa future mère et qu'elle a initié la grossesse précisément parce qu'une autre femme qui assistera à l'accouchement le plus souvent soit la mère. Dans son livre « Birthing a Mother », Ellie Temann explique que dans de nombreux cas, au moment de l'accouchement, la surrogate et le couple de parents intentionnels sont dans deux espaces contigus, séparés par une paroi de verre. D'un côté de la paroi, alors que l'accouchement s'annonce, une puéricultrice explique aux futurs parents comment tenir le nouveau-né. Sans être séparé du lieu de l'accouchement par une paroi fût-elle de verre, les parents que j'ai rencontrés me racontent la même expérience. Certains, particulièrement les pères gays, comme si les hommes avaient moins de compétences en la matière, ont reçu les conseils de leur mère ou de leur sœur. Il est parfois arrivé, en particulier dans le cas de naissances multiples, que les enfants soient très prématurés et que leur venue au monde devance largement la date prévue pour le voyage des parents d'intention. Tous ceux qui ont pu être présents au moment de l'accouchement disent avoir été associés à l'événement par les différents acteurs en présence, la surrogate bien sûr, mais aussi son mari ou sa propre mère, selon les cas, et des membres de l'équipe médicale. Pour ce qui concerne les couples hétérosexuels que j'ai rencontrés, le déroulement de l'accouchement lorsqu'il se passe comme prévu a été déterminé dans tous les cas de longue date, le plus souvent, à l'initiative de la surrogate ou des parents d'intention, enfin de la mère d'intention devrais-je dire, avec le personnel médical bien sûr. Car c'est sans surprise, pour ces cas, une affaire de femme. Dans tous ces cas que j'ai rencontrés, la surrogate avait avec elle, au moment de l'accouchement, fréquemment sa mère, voire sa sœur et plus ponctuellement son mari. Elle avait aussi invité les parents d'intention, la mère d'intention ayant un rôle prégnant, physiquement, située dans une plus grande proximité que son mari avec la femme qui allait accoucher. Certaines lui parlaient, l'encourageaient, lui épongeaient le front, lui tenaient la main, la caressaient, la réconfortaient. Lorsque l'accouchement durait longtemps et que survenaient éventuellement des moments d'inquiétude, la mère intentionnelle se tournait de temps à autre vers son mari, souvent juste derrière elle, et cherchait à son tour du réconfort auprès de lui. Virginie, que j'évoquais plus tôt et à laquelle je reviendrai dans un instant, raconte que la mère de la surrogate, voyant son anxiété, l'a souvent enlacée, lui disant de ne pas s'inquiéter, que tout allait bien se passer, qu'elle serait bientôt une mamie. Le personnel médical présent dans la salle d'accouchement, pas toujours informé des discussions que la surrogate et les parents d'intention ont eues, a toujours proposé aux parents d'intention d'avoir une part active dans la venue au monde de leur enfant, couper le cordon ombilical, participer à la première toilette, porter l'enfant sur son buste, peau à peau, le nourrir. La relation nourricière, du point de vue de l'organisation de la parenté dans la plupart des sociétés, mais à des degrés divers, est constitutive de la parenté, comme je l'évoquais tout à l'heure, et tout particulièrement dans l'idéologie de la maternité, évidemment, de la relation entre la mère et l'enfant. Si bien que certaines mères d'intention prennent un traitement hormonal afin de produire du lait et ainsi allaiter leur enfant après sa naissance. Aucune des mères intentionnelles que j'ai rencontrées n'a témoigné de cette pratique. Mais elle est rapportée, me semble-t-il, par une partie de la littérature, je pense en particulier à l'ouvrage à nouveau d'Elie. 4 couples hétérosexuels sur 10, les 10 que j'ai rencontrés, ont décidé, parfois en accord avec la surrogate, de nourrir tout de suite leur enfant au biberon. Les autres, sans l'avoir imposé à leur surrogate, ont préféré, en accord avec elle, que la surrogate le nourrisse au sein les premières heures et les premiers jours de sa vie. Il motivait cette décision sur la base des discours contemporains sur l'intérêt du colostrum, ce liquide épais produit par les glandes mammaires dans les derniers temps de la grossesse et les premiers jours suivant l'accouchement et riche en protéines et anticorps. Bien entendu, monsieur Nizan, si je me trompe, corrigez-moi. Je vous propose, avant de terminer et de conclure, d'examiner de plus près un exemple. Lorsque leur petite fille est née, l'équipe médicale a demandé à Virginie et à David s'ils souhaitaient que la surrogate l'allaite ou s'ils préféraient la nourrir au biberon et dans ce cas, s'ils souhaitaient utiliser le lait de la surrogate ou du lait maternisé. Les parents ont choisi de la nourrir au biberon avec du lait maternisé à tour de rôle. Cela nous renseigne moins sur la signification qu'ils attribuaient à l'allaitement maternel que sur la valeur qu'ils accordaient au fait de nourrir eux-mêmes leur enfant. Virginie a aussi souhaité qu'à sa naissance, on pose sa fille sur son buste, peau à peau. Le dépôt du nouveau-né, nu, sur le buste de sa mère, nu lui aussi, juste à l'issue de l'accouchement, est une pratique relativement répandue, me semble-t-il, aujourd'hui dans nos sociétés. Ce que rapporte Virginie l'a été aussi par d'autres mères intentionnelles. Dans ces histoires, la fabrication de la maternité se fait ici par le corps à corps immédiat et l'instauration, sans délai, d'un lien nourricier, via le biberon, entre l'enfant et sa mère. Il me faut préciser ici tout de suite que la référence à l'expérience corporelle n'était pas absente pour autant des discours relatifs à la naissance de leurs enfants, des pères gays que j'ai rencontrés. Quelques-uns, pour des raisons diverses, n'ont pas pu être présents à la naissance, souvent en cas de naissance prématurée. Ceux qui ont pu être présents ont dit avoir vécu l'accouchement intensément. Trois ont pratiqué le peau à peau. Ils y ont été invités par la surrogate et le personnel médical. Les autres ont néanmoins beaucoup insisté, sans véritable surprise évidemment, sur l'expérience corporelle de la naissance. L'enfant a été rapidement déposé dans leurs bras. Ils l'ont embrassé, me disent-ils, l'ont touché, l'ont caressé, ce sont leurs mots. Lorsque l'enfant n'était pas nourri par la surrogate, ils lui ont donné le biberon, ils l'ont changé, et beaucoup ont participé à la première toilette. La sociologie a montré depuis longtemps que les hommes n'ont jamais été préposés, particulièrement aux soins des enfants, en particulier des nouveau-nés. Les hommes dont je parle ici paraissent ancrer leur paternité dans une forme d'expérience corporelle également, même si elle est de nature différente de celle des mères intentionnelles qui accueillent leur enfant peau à peau sur leur poitrine. Je pourrais développer ici davantage leurs propos dans ce domaine, mais ce serait encore trop long. S'associer aux gestes profanes qui entourent l'accouchement et y être invité par la surrogate, comme par les personnels médicaux et paramédicaux, traduit bien l'importance de la chair dans la fabrication de la maternité d'abord, mais aussi de la paternité. Ces gestes exercés directement sur le corps de bébé, au contact du corps de ses parents, sont investis d'une signification importante. Pour être tout à fait complet, j'aurais pu analyser la manière dont les mères et les surrogates revisitent tous les petits rituels contemporains qui participent à la fabrication de la maternité, la place des échographies pendant la grossesse, et des photographies dans la salle d'accouchement, et juste après, le baby shower nord-américain. D'autres l'ont fait, d'autres le feront, et cela, de toute façon, aujourd'hui, aurait nécessité trop de temps. Merci.
Merci Jérôme Courduriès. Je vais donner la parole à Martine Gross, qui est sociologue au CNRS et qui a consacré ses travaux à l'homofiliation depuis une quinzaine d'années. Martine, tu as la parole.
Oui, alors l'homoparentalité ou l'homoparenté, pas l'homofiliation. Bon, c'est une vieille discussion qu'on a eue. Alors, non, ça va aller là. D'abord, merci beaucoup vraiment pour ce colloque merveilleux qui a été si riche et qui m'a tant appris. Merci aussi de m'avoir invité à participer. Je dois avouer que parler en dernier, après toutes ces interventions aussi brillantes les unes que les autres, m'intimide quelque peu. Donc, je vais vous parler des relations que des hommes gays entretiennent avec la femme qui a porté leur enfant dans le cadre d'une gestation pour autrui. Deux enquêtes qualitatives, l'une sur la paternité gay menée en ce qui concerne la GPA avec Dominique Mel en 2009 et l'autre menée en 2012 avec Jérôme Courduriès sur le fonctionnement des familles homoparentales, ont permis de recueillir les témoignages d'une cinquantaine d'hommes qui avaient eu recours à une gestation pour autrui. Une dizaine de couples ont accepté de m'accorder un nouvel entretien en janvier 2016 dans le cadre d'un suivi d'enquête pour explorer ce que sont devenues les relations tissées avec les femmes qui ont contribué à donner la vie à leurs enfants. La plupart des enquêtés qui avaient eu recours à la GPA exprimaient, quand je les avais vus pour la première fois, le souhait de maintenir des contacts avec la gestatrice et avait demandé à ce que la donneuse d'ovules, quand il y en avait une, accepte que l'enfant ait accès à son identité, à sa majorité. Les couples qui ont eu recours à la gestation pour autrui aux États-Unis avaient tous émis le souhait de maintenir le lien ou de rester en contact. Il y a ceux pour lesquels il est important de maintenir un contact avec la gestatrice pour les enfants, mais sans souhaiter nouer une relation profonde, juste pour le cas où les enfants voudraient la rencontrer. Il s'agit aussi de pouvoir répondre à leurs questions et de clarifier quand c'est nécessaire. Philippe et Michel sont pères de 3 enfants. En 2012, Louise avait 2 ans. Aujourd'hui, enfin, lors du suivi d'enquête, elle en a 6. Et entre-temps, sont nés ses frères, des jumeaux âgés de 9 mois. Les mêmes femmes leur ont donné la vie. Et ils sont en contact avec elle, la femme porteuse, Véronica. Au début, ils parlaient d'elle en l'appelant par son prénom. Et Louise a commencé à dire que c'était sa maman. Alors, ils le disent aussi. Aujourd'hui, ils disent que c'était important de rester en contact pour pouvoir répondre aux questions de Louise et aussi parce que c'est une personne qu'ils estiment. Véronica a 2 enfants que Louise considère comme ses sœurs. Pour Louise, comme pour ses pères, Véronica et ses enfants font partie de la famille. Dans l'exemple de Philippe et Michel, et puis dans les exemples suivants, le recours à la gestation pour autrui a contribué à constituer une famille élargie en passant par les enfants. Ainsi, Pablo et Jacques-Antoine ont des jumeaux aujourd'hui âgés de 7 ans. Ils ne souhaitaient pas spécialement maintenir des liens avec les femmes qui les ont aidés. Pour eux, la gestatrice n'est pas une mère, mais comme pour Philippe et Michel, ces enfants sont des frères et sœurs de leurs propres jumeaux. Quand je les ai rencontrés la première fois, leurs jumeaux avaient quelques mois. Ils étaient très critiques de ce qu'ils entendaient au sein de l'association des familles homoparentales. Je les cite, toute cette histoire tellement romantique qui s'entretient un peu dans l'association, tous ces contacts, la transparence, la clarté, tout ça, nous, on n'était pas pour. On va leur raconter qu'il y a une femme, mais on ne veut pas cette histoire de conte de fées avec toutes les marraines autour du berceau. Ils sont reconnaissants. Il y a 2 femmes qui ont donné de l'amour, elles nous ont donné la possibilité d'avoir cette famille. C'est précieux. Ils avaient l'intention de dire à leurs enfants qu'ils n'avaient pas de maman. Non, toi tu n'en as pas. Tu as papa Jacques-Antoine et papa Pablo. Et puis 2 dames charmantes, on te les présentera quand tu voudras, que tu pourras connaître si tu veux, qui ont fait que tu es là avec nous. 6 ans plus tard, Pablo et Jacques-Antoine maintiennent le lien. On maintient 3 ou 4 fois l'année. On s'envoie des photos. À Noël, on s'envoie des vœux. À l'anniversaire des enfants et des siens. Elle s'est remariée. On suit un peu. Les enfants ont des photos d'elle. Ils savent son nom. Les 2 pères ne la considèrent pas comme un membre de la famille. Mais les enfants, si. Bah, qu'est-ce qui se passe là ? Ils savent qu'elle les a portés. Quelquefois, ils dessinent un tableau avec la mythologie familiale. Ils nous mettent, nous 4, plus elle, plus les 6 enfants qu'elle a par ailleurs, son nouveau mari. Et quand on fait le compte de tout ça, on est 10 de membres de la famille. Ce sont les enfants qui la considèrent comme partie de la famille. Nous, on maintient le contact. On sait ce qu'elle devient, on s'échange des mots gentils, on demande comment vont les enfants. Mais elle n'est pas vraiment de notre famille. Mais pour les enfants, si. Ils considèrent ces enfants comme leurs frères et sœurs. Pour eux, la gestatrice est leur mère, et si on leur pose la question, ils vont expliquer l'histoire qu'ils ont une maman, qu'elle habite en Californie. Quand Max et Michel parlent de la gestatrice, ils l'appellent par son prénom ou disent la porteuse, la surrogate. Max explique qu'il utilise sciemment ces termes parce qu'il ne veut pas employer le mot mère pour aucune des 2. Ni la donneuse, il l'appelle la donneuse. Mais il ajoute, c'est plus qu'une amie pour nous, c'est une sœur, en parlant de la gestatrice. De fait, ils sont restés plusieurs mois aux États-Unis après l'accouchement. Le contact avec elle est permanent par Internet. Et ils se voient au moins 1 fois par an. Soit c'est elle qui vient en France, soit c'est eux qui voyagent aux États-Unis. Max explique que c'est important de rester en relation pour pouvoir donner des réponses aux enfants, tant sur la femme qui a donné ses ovocytes que sur celle qui a porté. Pour Max et Michel, le contact sera permanent. La surrogate et nous, on se verra tous les ans, à peu près, et de toutes les façons, on se donne des nouvelles par email plus souvent. Elle vient les années impaires en Europe et nous les années paires aux États-Unis. On échange des mails, des photos, la relation est toujours là par téléphone ou par message interposé. Lors du suivi d'enquête, les enfants ont 8 ans. Ils connaissent la gestatrice, ses parents et ses enfants, à la fois par Skype et parce qu'ils sont allés aux États-Unis. Ils savent qui elle est et ce qu'elle a fait pour eux, tout en sachant que ce n'est pas leur maman. Ils l'appellent par son prénom. Ils l'appellent Carrie. Ça pourra peut-être un jour les arranger de dire « ma mère » qui habite aux États-Unis, mais pour l'instant, ils n'ont pas eu à le faire. Max et Michel décrivent leur relation avec Carrie comme une sorte de famille élargie. Non, c'est pas ça. Bon, tant pis. Des amis ou presque des cousins. C'est un mélange ami-cousin. On est membre d'une famille élargie. On est à la fois une famille élargie et une famille qui s'est choisie. Une famille élargie qui s'est choisie. Pour sa fille de 17 ans, nous sommes les cousins de France. Ça n'a jamais nourri le fantasme d'une mère qui n'existe pas. On tient à ça et on sent que Carrie, elle y tient plus que nous à la limite. Nous, on ne verrait pas d'un mauvais œil qu'il y ait plus d'affection physique entre elle et les enfants quand elle les rencontre. Elle ne le veut pas. Elle n'a simplement pas envie d'avoir nos enfants dans ses jupons tout le temps. Max et Michel et d'autres couples évoquent la réticence de la femme porteuse à être considérée comme une mère. Or, certains hommes tiennent à se rapprocher du modèle traditionnel et souhaitent que leur enfant ait une mère. Certains, comme Marc et Fabrice, ou Damien et Christophe, veulent se rapprocher le plus possible du modèle généalogique traditionnel. Damien et Christophe ont deux enfants qu'ils ont conçus avec Stacy et deux donneuses différentes. Il y a Noël, qui a 7 ans, et Clarisse, 4 ans et demi. Ils sont tous les deux très proches de Stacy, de son mari et de leurs trois filles, 10, 12 et 16 ans. Damien et Stacy échangent tous les deux jours par mail, par WhatsApp ou autre. Les deux familles se retrouvent tous les ans pour passer les vacances ensemble aux États-Unis, soit pour Halloween, Noël ou l'été. L'aînée des filles, celle qui a 16 ans, vient pour les vacances chez eux. Damien et Christophe considèrent que Stacy est la maman de leurs enfants. Stacy n'a porté des enfants que pour eux et n'a pas l'intention de porter des enfants pour qui que ce soit d'autre. Elle voulait aider un couple à devenir une famille et elle a été tout de suite partante pour faire un deuxième enfant, mais c'est elle qui les a relancés assez rapidement pour le faire. Les enfants l'appellent maman et racontent que leur maman vit aux États-Unis. Le couple ne se perçoit pas comme deux papas et les deux hommes tiennent beaucoup à être différenciés. Ainsi, Damien se fait appeler papa et Christophe se fait appeler Daddy par Noël, parce que c'est Damien le père biologique de Noël. Et inversement, se fait appeler Daddy par Clarisse, qui appelle Christophe son père biologique papa. Pour Clarisse, donc la plus jeune, ces appellations étaient au début un petit peu difficiles, car elle entendait son frère appeler papa celui qu'il fallait appeler Daddy. Et réciproquement. Parce qu'en fait, sur le fond, on n'avait pas trop envie qu'ils disent qu'ils avaient deux papas et pas de maman. Pour Noël et Clarisse, les trois filles de Stacy et Tim sont leurs sœurs. Ces 9 personnes constituent une famille élargie au point que les parents de Stacy, la femme porteuse, et les parents de Tim, son mari, considèrent Noël et Clarisse comme leurs petits-enfants. De véritables liens de parenté avec la femme qui a porté les enfants et sa famille se sont donc constitués, tant du côté des parents d'intention que du côté de la femme porteuse et de sa propre famille. Avoir porté les enfants et permis l'intégration des uns et des autres dans un réseau de parenté a permis l'intégration des uns et des autres dans un réseau de parenté réciproque. Jérôme Courduriès l'a souligné. Pour un couple gay, vouloir construire pour l'enfant un cadre familial le plus conforme possible aux attentes dominantes peut conduire à voir dans la femme porteuse une figure maternelle. Mais ce choix est risqué, car si les pères veulent donner une maman à leur enfant, il n'est pas évident que la gestatrice les suive dans cette voie. Les anthropologues tels que René Almeling, Elie Tema ou Amrita Pandey, qui ont rencontré des femmes porteuses, montrent qu'elles ne se considèrent généralement pas comme les mères des enfants qu'elles portent pour autrui. Marc et Fabrice ont fait le choix d'une gestation traditionnelle. Donc la gestatrice et la donneuse sont une seule et même personne. Parce qu'ils souhaitaient avoir un lien très fort avec Regina, qu'ils considèrent comme la maman de Maud, qui a 7 ans aujourd'hui. Le mot de maman a toujours été utilisé. Ils avaient demandé à Regina si elle était d'accord, et elle avait dit oui. Pourquoi était-ce important ? C'était important, génétiquement parlant, pour nous. Il me semblait important que Maud puisse savoir à qui elle ressemblait. D'ailleurs, elle ressemble beaucoup à Regina et à Fabrice. Que ce ne soit pas une étudiante qui ait donné un ovule et qui disparaisse de la circulation. On voulait aussi que Maud puisse dire « Ma maman, elle ne fait pas bien à manger » ou « Ma maman, elle a les mêmes pieds que moi ». Quand elle a une situation de défiance des autres enfants qui lui disent « Ah, t'as deux papas ?» Maud répond « Oui, mais j'ai ma maman et ma maman, elle m'a préparé des crêpes aux États-Unis quand j'y étais la semaine dernière ». Et là, du coup, les autres enfants disent « Ah, c'est trop bien, t'as deux papas et une maman ». Ils se sont vus au moins une fois par an depuis la naissance de Maud, voire plus, car pendant un temps, il a été question d'un deuxième enfant. Et pendant cette période, ils y allaient 4 fois par an. Regina venait aussi en France. Lorsque Maud a eu 2 ans, Regina s'est séparée de son mari et s'est retrouvée seule avec ses 2 enfants. Elle était très attachée à Maud. Quand Maud était petite, c'était davantage Regina qui était demandeuse de la relation. Marc a créé un site où il envoyait au jour le jour les photos, les vidéos qui étaient partagées avec Regina et sa famille. Maud lui parlait au téléphone. Quand elle a rencontré Kevin, son deuxième mari, elle a tenu à lui faire accepter le principe de porter un deuxième enfant pour le couple d'hommes. Pour Maud, le mari de Regina est oncle Kevin. Maud considère Mike et Allison, les enfants de Regina, comme son frère et sa sœur. Petit à petit, les emails de Regina ont commencé à s'espacer. Moi, je continuais, je m'investissais tout autant, je lui écrivais « Tu dois être occupée, mais je t'écris quand même. Maud a fait ceci, Maud a fait cela. » Maud est extrêmement en demande, elle pleure souvent. Elle dit « Je veux que maman habite ici. » On lui explique qu'elle ne peut pas vivre ici. Elle a sa vie là-bas et Allison et Mike seraient tristes. Elle dit « Je veux mes 2 papas et ma maman ». On essaye de sensibiliser Regina au fait que Maud est de plus en plus en demande. Depuis que Regina a réduit les contacts, Marc et Fabrice essayent de moins l'appeler maman. On vit dans la peur que ce lien disparaisse pour Maud. Et ça, pour moi, ce n'est pas facile. On s'est engagé à lui offrir ce schéma familial-là. Il faut qu'on le maintienne jusqu'à ce qu'elle soit capable de le gérer elle-même. Elles ont des rendez-vous téléphoniques que nous sollicitons ardemment. Maud est folle de joie dans l'attente du rendez-vous, et puis le rendez-vous n'a pas lieu, et Maud est super déçue. Au moment de l'entretien que j'ai avec Marc, Marc est désemparé et se demande quoi faire. En conclusion, la plupart des hommes interrogés avaient eu recours à la gestation pour autrui aux États-Unis et avaient tissé un lien très fort avec la gestatrice. Ils sont parfois non seulement proches d'elle, mais également de son mari et de leurs enfants qui appellent le nouveau-né leur frère ou sœur de surrogacy. Anne Cadoret et Geneviève Delézy avaient déjà remarqué cette dynamique relationnelle intense entre les pères gays et les gestatrices. Elie Tema et Shirène Cachemery rapportent que certaines femmes disent préférer porter un enfant pour un couple d'hommes parce que la relation avec eux est moins stressante qu'avec un couple hétérosexuel. C'est que chez les couples d'hommes, aucune mère intentionnelle ne vient occuper la place de mère qui peut ainsi être préservée pour la gestatrice, même si cette dernière s'en défend. Souvent, elle fait partie de la famille élargie du couple et réciproquement, le couple et les enfants sont considérés par la famille de la gestatrice comme en faisant partie. Lorsque ce n'est pas le cas, ou lorsque la gestatrice n'est pas considérée comme une mère par les pères, il arrive que les enfants, eux, racontent l'histoire de leur conception en la positionnant comme leur mère d'Amérique et en considérant ses enfants à elle comme leurs frères et sœurs. Certains pères, convaincus que le bien de l'enfant commande de lui donner une famille la plus traditionnelle possible, sont tentés de lui donner une place de mère, gommant la réalité du processus de gestation pour autrui, à savoir donner la vie à un enfant sans endosser la maternité. Le risque est grand, comme on le voit dans l'histoire de Marc et Fabrice, de décevoir l'enfant si des liens se tissent que les adultes ne veulent ou ne peuvent pas maintenir. Les familles homoparentales, avec les autres familles au sein desquelles procréation et parenté ne se confondent pas, expérimentent de nouveaux liens familiaux. Tandis que paternité et maternité se redéfinissent en se redéployant, la famille se met à l'épreuve de la plasticité et de la mobilité des mœurs. L'homoparentalité, et notamment lorsqu'elle se conjugue au masculin, s'inscrit dans ce mouvement de remodelage et de subjectivisation du lien familial. Merci.
Voilà, quelques mots de, pas de conclusion, peut-être de remerciements à l'égard d'abord des intervenants qui nous ont fait le plaisir, l'intérêt, le bonheur de répondre à notre invitation. Notre, c'est-à-dire, il y avait un comité d'organisation pour ce colloque, un comité donc qui est là devant vous. Et bien sûr, nous avons travaillé ensemble depuis 2 ans. Ce comité, il avait une âme, on peut dire. Il avait un mother-in-chief, comme dit Michelle Obama. Et donc, d'abord, moi, je veux, au nom du comité d'organisation et de nous tous, remercier encore une fois Virginie. Et donc dire simplement que nous avons été très sensibles, à la qualité des interventions, à la richesse de ce que nous avons entendu, qui est allé au-delà encore de ce qu'on avait imaginé, à la fois dans la façon dont on a dressé des tableaux, non seulement divers, on avait eu des mots prudents au début, mais quelquefois violemment contrastés, des situations d'un pays à l'autre, et même à l'intérieur d'un même pays, sur la situation des surrogates, des enfants et des parents d'intention, de l'organisation, etc. Je ne veux pas entrer dans l'immense question, un bilan des questions qui ont été abordées, qui allaient depuis donc, ce système relationnel entre les protagonistes jusqu'aux questions juridiques, en passant par les questions médiatiques et des réseaux Internet. Vous avez bien tout ça en tête. Le sentiment qu'on a, c'est un peu qu'on voudrait aller encore plus loin. Et donc, quelques éléments simplement pour la suite des choses. D'abord, pour dire que dès lundi, seront donnés sur le site du colloque, qui est abrité par l'INED, les résumés, qui sont assez longs, comme vous l'avez vu, de façon à ce qu'au-delà de ceux qui, comme vous, les ont déjà, eh bien, ils puissent être à la disposition de qui voudra les lire. Vous avez également à votre disposition, vous l'avez remarqué, dans les biographies, les emails de toutes les personnes qui sont intervenues, ce qui vous permet d'entrer en contact directement avec elles. Le colloque, et je remercie Philippe Kergrès pour le HESS, a été enregistré et les interventions, peut-être pas les débats, mais au moins les interventions seront également la captation vidéo. Nous allons essayer qu'elle soit mise en ligne le plus vite possible. Au-delà, il y a des actes qui sont prévus. Vous avez compris que nous avons demandé à nos orateurs l'effort de ces 15 minutes, sachant qu'il y aura bientôt la possibilité pour eux, en anglais ou en français, quelquefois en rendant disponible en français des textes qui n'existaient qu'en anglais ou l'inverse, donc de publication des actes. Le fait que ce colloque soit un événement scientifique, le premier en France sur le sujet, sur un sujet dont on a vu qu'il est capital, non seulement, je dirais, ce qu'on a vu dans ce colloque, la GPA est une pratique minoritaire, mais elle n'est en aucun cas une pratique mineure. à travers la GPA, ce sont les questions les plus fondamentales des bioéthiques, de la parenté, des rapports nord-sud, des inégalités sociales qui sont posées. Donc, mettre à disposition les actes du colloque dès le printemps, c'est l'effort que nous allons demander à nos orateurs pour qu'il y ait une suite. Dernier point important, il y avait évidemment ceux qui sont intervenus, mais ce qui a été pour nous vraiment touchant, c'est le fait que tant de personnes se soient inscrites en si peu de temps pour ce colloque. 85% des auditeurs étaient des chercheurs. Et disons qu'il y avait autant de chercheurs dans la salle que à la tribune. Et donc venu, comme Virginie l'avait dit, de plusieurs pays d'Europe, quelquefois aussi compétents que ceux qui ont parlé ici sur les sujets. Et donc ce que nous souhaitons, c'est dépasser maintenant cette distinction entre les orateurs et les écoutants, en quelque sorte, et faire une proposition qui nous concerne tous. La GPA, c'est vraiment une question importante qui nous permet d'aller plus loin, non seulement sur un fait de société très complexe, très disputé, posant de graves questions, mais aussi des questions fondamentales pour nos disciplines, que nous soyons démographes, sociologues, anthropologues, psychologues, médecins, etc. Et donc, ce que nous voudrions proposer, c'est que parce que vous avez nos emails, mais nous avons les vôtres. Et donc, c'est peut-être de constituer un réseau international de recherche sur la gestation pour autrui, pluridisciplinaire, juriste, sciences sociales, sciences cliniques. Et donc, on n'a pas de projet précis, disons, mais on peut lancer une concertation avec vous sur les possibilités de mettre en place ce réseau de façon à se donner des outils pour échanger nos travaux et peut-être pour, et nous l'espérons, pour de futures retrouvailles autour des questions que nous avons abordées et d'autres qui viendront. Voilà.